Jules Verne, César Cascabel, première partie, chapitre 12. De Sitka au Fort Yukon. Le 26 juin, dès l'aube, le char Cascabel leva l'ancre, suivant l'une des expressions métaphoriques familières à son commandant. Reste à savoir, pour compléter cette métaphore par la phrase imagée de l'immortel prud'homme, s'il n'allait pas naviguer sur un volcan. Cela n'était point impossible, au figuré d'abord, parce que les difficultés de la route seraient grandes, au physique ensuite, parce que les volcans, éteints ou non, ne manque point sur la côte septentrionale de la mer de Béring. La belle roulotte quitta donc la capitale alaskienne, au milieu des mille souhaits de bon voyage qui accompagnèrent bruyamment son départ. C'étaient ceux des nombreux amis dont la famille avait recueilli les bravos et aussi les roubles pendant quelques jours passés aux portes de Sitka. Le mot « porte » est plus juste qu'il ne semble. En effet, la ville est entourée d'une palissade, fortement établi, ne livrant passage que par de rares ouvertures et qu'il ne serait pas aisé de franchir sans permission. C'est que les autorités russes ont dû se prémunir contre l'affluence des Indiens Kalushs qui viennent s'installer le plus ordinairement entre les rivières Stekine et Chilcot aux alentours de la Nouvelle-Arkhangel. Là, Passim, se dressent leurs huttes qui sont de construction fort rudimentaire. Une porte basse, donne accès dans une chambre circulaire, quelquefois divisée en deux compartiments, uniquement éclairée par un trou ménagé à la partie supérieure et qui permet à la fumée du foyer de s'échapper au dehors. L'ensemble de ces huttes forme comme un faubourg de Sitka, un faubourg extramuros. Après le coucher du soleil, aucun Indien n'a le droit de demeurer dans la ville, défense justifiée que nécessitent les relations souvent inquiétantes qui existe entre les peaux rouges et les visages pâles. En dehors de Sitka, la belle roulotte dut d'abord traverser une série d'étroites passes au moyen de bacs disposés pour cet usage afin de gagner le fond d'un golfe sinueux terminé en pointe appelé Lian Canal. À partir de là, on était en terre ferme. Le plan du voyage, ou plutôt l'itinéraire, avait été soigneusement étudié par M. Serge et Jean sur les cartes à grande échelle qu'il avait été facile de se procurer au Gardens Club. Cayette, connaissant bien le pays, avait été appelé à donner son avis dans cette circonstance. Sa vive intelligence lui avait permis de comprendre les indications de la carte mise sous ses yeux. Elle s'exprimait dans un langage moitié indien, moitié russe, et ses observations furent très utiles pour la discussion. Il s'agissait de prendre, sinon le plus court, du moins le plus facile, pour atteindre Port Clarence, situé sur la rive est du détroit. Il fut ainsi convenu que la belle roulotte rejoindrait directement le grand fleuve Yukon à la hauteur du fort qui a pris le nom de cet important cours d'eau. C'était à peu près à mi-route de l'itinéraire, soit à 250 lieues de Sitka. On éviterait ainsi les difficultés qu'aurait offertes un cheminement le long de la frange littorale où la côte est en partie montagneuse. Au contraire, la vallée de Yukon s'élargit entre les chaînes compliquées de l'ouest et les montagnes rocheuses qui séparent l'Alaska de la vallée du Mackenzie et du territoire de la Nouvelle-Bretagne. Il suit de là que, quelques jours après son départ, la famille Cascabel avait vu disparaître vers le sud-ouest ces profils accidentés de la côte que dominent à une grande hauteur le mont Fairweather et le mont Elias. Du reste, la distribution des heures de marche et de halte, réglée avec soin, était rigoureusement observée. Il n'y avait pas lieu de se presser pour gagner le détroit de Béring, et mieux valait aller piano pour aller sano. L'important était de ménager les deux chevaux, qui ne pourraient être remplacés que par un attelage de rennes, si l'on venait à les perdre, éventualité qu'il convenait d'éviter à tout prix. Aussi, chaque matin, départ vers 6 heures, halte de midi à 2 heures, et reprise de marche jusqu'à 6 heures du soir, puis repos pendant la nuit entière. Cela donnait une moyenne de 5 à 6 lieues par jour. Au surplus, s'il avait fallu voyager la nuit, rien n'eût été plus facile car, suivant la remarque de M. Cascabel, le soleil de l'Alaska n'abusait pas de son lit. « À peine est-il couché qu'il se lève, » disait-il. « 23 heures d'éclairage, et on ne le paie pas plus cher pour cela. » En effet, à cette époque, c'est-à-dire aux environs du solstice d'été, et par cette haute latitude, le soleil disparaissait à 11h17 du soir et reparaissait à 11h49, soit 32 minutes d'éclipse sous l'horizon. Et même le crépuscule, qui se prolongeait après lui, mélangeait sans interruption sa clarté à celle de l'aube nouvelle. Quant à la température, elle était chaude et parfois étouffante. En ces conditions, il eût été plus qu'imprudent de ne pas faire halte pendant les heures brûlantes de la méridienne. Gens et bêtes souffraient très sensiblement de ces chaleurs excessives. Qui pourrait croire que, sur la limite du cercle polaire, le thermomètre marque parfois 30 degrés centigrades au-dessus de zéro? Rien de plus vrai, pourtant. Néanmoins, si le voyage s'accomplissait sûrement et sans grande difficulté, Cornelia, très éprouvée par ses insupportables chaleurs, se plaignait, et avec quelque raison. « Vous regretterez bientôt ce qui vous paraît si pénible à supporter, » lui dit un jour M. Serge. « Une pareille chaleur? Jamais !» s'écria-t-elle. « En effet, mère, » ajouta Jean, « tu souffriras bien autrement du froid au-delà du détroit de Béring, quand nous traverserons les steppes de la Sibérie. »« D'accord, monsieur Serge, » répondit M. Cascabel, « mais si on ne peut se défendre contre la chaleur, du moins le feu aidant, il est possible de combattre le froid. »« Oui, certes, mon ami, » répliqua M. Serge. Et c'est bien ce que vous aurez à faire dans quelques mois, car le froid sera terrible, ne l'oubliez pas. » Cependant, à la date du 3 juillet, après avoir circulé à travers les canons, étroite gorge capricieusement découpée au milieu des collines de moyenne altitude, la belle roulotte ne vit plus s'allonger devant elle que de longues plaines entre les forêts clairsemées de ce territoire. Ce jour-là, elle dut côtoyer un petit lac, le lac Dease, d'où s'échappait le Rio Lewis, un des principaux tributaires du bas Yukon. Cayette, l'ayant reconnu, dit « Oui, c'est bien là le cargou, qui va se jeter dans notre grand fleuve. » Et elle avait appris à Jean qu'en langage alaskien, ce mot « cargou » signifie précisément « petite rivière ». Pendant ce cheminement sans obstacle ni fatigue, est-ce que les artistes de la troupe Cascabel négligeaient de répéter leurs exercices, d'entretenir la force de leurs muscles, la souplesse de leurs membres, l'adresse de leurs mains? Non, certes, et, à moins que la chaleur ne le permît pas, chaque campement se transformait le soir en une arène qui avait pour unique spectateur M. Serge et Cayette. Tous deux admiraient alors les prouesses de cette vaillante famille, la jeune Indienne, non sans quelque étonnement, M. Serge avec bienveillance. Tour à tour, M. et Mme Cascabel soulevaient des poids à bras tendus et jonglaient avec des haltères. Cendre se retrempait dans des dislocations et contorsions dont il avait la spécialité. Napoléon se hasardait sur la corde tendue entre deux chevalets et déployait ses grâces de danseuse, tandis que Clou paradait devant un public imaginaire. Certes, Jean eût préféré ne pas quitter ses livres, s'instruire en causant avec M. Serge, instruire Cayette, qui, grâce à lui, faisait de très rapides progrès dans la langue française, mais son père exigeait qu'il ne perdît rien de sa remarquable adresse d'équilibriste, et, par obéissance, il faisait voltiger ses verres, ses anneaux, ses boules, ses couteaux, ses bâtonnets, en pensant à tout autre chose, le pauvre garçon. D'ailleurs, ce qui lui avait causé une sérieuse satisfaction, c'est que M. Cascabel avait dû renoncer à faire de Cayette une artiste foraine. Depuis que la jeune fille avait été adoptée par M. Serge, un homme riche, un savant, appartenant au meilleur monde, son avenir était assuré et dans les plus honorables conditions. Oui, cela lui faisait plaisir à ce brave Jean, bien que, d'autre part, il éprouvât un réel chagrin en songeant que Cayette les quitterait une fois arrivée au détroit de Béring. Et on n'aurait pas eu ce regret si elle eût fait partie de la troupe en qualité de ballerine. Mais Jean ressentait pour elle une trop vive amitié pour ne pas se réjouir en songeant qu'elle avait été adoptée par M. Serge. Est-ce que lui-même n'éprouvait pas un ardent désir de changer sa situation? Obéissant à ses instincts plus relevés, il ne se sentait pas propre à cette existence de saltimbanque. Et que de fois, sur les places publiques, il avait eu honte des bravos que lui valait sa merveilleuse adresse. Un soir, se promenant avec M. Serge, il se montra sans réserve à lui avec ses aspirations et ses regrets. Il dit ce qu'il aurait voulu être, ce qu'il se croyait de légitime ambition. Peut-être à continuer de courir le monde, à s'exhiber dans les fêtes foraines, à poursuivre ce métier de gymnaste et d'acrobate, s'entourer de jongleurs et de clowns. Peut-être ses parents arriveraient-ils à une petite aisance. Peut-être lui-même finirait-il par acquérir quelque fortune. Mais alors il serait trop tard pour s'engager dans une carrière plus honorable. « Je ne rougis pas de mon père et de ma mère, monsieur Serge, » ajouta-t-il. « Non, je serais un ingrat. Dans la limite de ce qu'ils pouvaient faire, ils n'ont rien omis. Ils ont été bons pour leurs enfants. Cependant, je sens que je pourrais devenir un homme, et je ne suis destiné qu'à être un pauvre saltimbanque. » « Mon ami, » lui répondit monsieur Serge, « je te comprends. Mais laisse-moi te dire que, n'importe quel métier, c'est déjà quelque chose que de l'avoir exercé honnêtement. Connais-tu de plus honnêtes gens que ton père et ta mère ? Non, monsieur Serge. Eh bien, continue à les estimer comme je les estime moi-même. En voulant t'élever, tu fais preuve d'une noble tendance. Qui sait ce que l'avenir te réserve ? Prends courage, mon enfant, et compte sur mon appui. Je n'oublierai jamais ce que ta famille a fait pour moi. Non, jamais. Et un jour, si je peux... » Et tandis qu'il parlait de la sorte, Jean observait que le front de monsieur Serge s'obscurcissait, que sa voix était moins assurée. Il semblait regarder l'avenir d'un œil inquiet. Il y eut là un instant de silence que Jean interrompit en disant « Une fois arrivé à Port-Clarence, monsieur Serge, pourquoi ne continueriez-vous pas le voyage avec nous, puisque vous avez l'intention de retourner en Russie, près de votre père ?»« C'est impossible, Jean, » répondit monsieur Serge. « Je n'ai point achevé l'exploration que j'ai entreprise à travers les territoires de l'Ouest-Amérique. » « Cayette restera-t-elle avec vous ?» murmura Jean. Et il dit cela d'une voix si triste que M. Serge ne put l'entendre sans ressentir une profonde émotion. « Ne faut-il pas qu'elle m'accompagne ? » reprit-il, « maintenant que je me suis chargé de son avenir ?»« Elle ne vous quitterait pas, M. Serge, et dans votre pays... »« Mon enfant, » répondit M. Serge, « mes projets ne sont pas définitivement arrêtés. Voilà tout ce que je puis te dire maintenant. Lorsque je serai à Port-Clarence, nous verrons. » Peut-être à ce moment-là aurai-je affaire à ton père une certaine proposition, et de sa réponse dépendra. » Jean sentit se renouveler l'hésitation qu'il avait déjà remarquée dans les paroles de M. Serge. Cette fois, il n'insista pas, comprenant qu'une extrême réserve lui était commandée. Mais depuis cet entretien, il y eut une plus étroite sympathie entre eux. M. Serge avait reconnu tout ce qu'il y avait de bon, de sûr, d'élevé, dans ce garçon si droit, si franc. Aussi s'employait-il à l'instruire, à le diriger vers les études où le portaient ses goûts. Quant à M. et Mme Cascabel, ils ne pouvaient que se féliciter de ce que M. Serge faisait pour leur fils. Toutefois, Jean ne négligeait point ses fonctions de chasseur. M. Serge, très passionné pour cet exercice, l'accompagnait le plus souvent. Et, entre deux coups de fusil, que de choses on peut dire. Ses plaines étaient très giboyeuses, des lièvres, il y en avait de quoi nourrir toute une caravane. Et ce n'était pas uniquement au point de vue comestible qu'ils avaient leur utilité. Il n'y a pas là que des râbles et des salmis qui courent. Ce sont aussi des manteaux, des boas, des manchons, des couvertures, dit un jour M. Cascabel. En effet, mon ami, lui répondit M. Serge, et quand ils auront figuré à l'office sous une forme, ils figureront non moins avantageusement sous l'autre dans votre garde-robe. On ne saurait trop se prémunir contre les rigueurs du climat sibérien. C'est pourquoi on faisait provision de ces pots, tout en économisant les conserves pour l'époque où l'hiver mettrait en fuite le gibier des contrées polaires. Au reste, lorsque les chasseurs ne rapportaient ni perdrix ni lièvres, Cornelia ne dédaignait pas de mettre dans le pot-au-feu un corbeau ou une corneille, à la mode indienne, et la soupe n'en était pas moins excellente. Il arrivait ainsi que, de temps à autre, M. Serge ou Jean tiraient de leur carnier un magnifique coq de bruyère, et l'on s'imaginera sans peine combien ce rôti faisait bonne figure sur la table. La belle roulotte n'avait donc pas à craindre d'être éprouvée par la faim. Il est vrai, elle n'était encore engagée que dans la partie la plus facile de son aventureux itinéraire. Un ennui, par exemple, et même une souffrance qu'il fallait supporter, c'était les importunités des moustiques. Maintenant que M. Cascabel n'était plus sur une terre anglaise, il les trouvait très désagréables, et sans doute leur fourmillement aurait dépassé toute mesure si les hirondelles n'en eussent fait une consommation extraordinaire. Mais ces hirondelles ne tarderaient pas à émigrer vers le sud, car il est de bien courte durée le séjour qu'elles font sur la limite du cercle polaire. Le 9 juillet, la belle roulotte arriva au confluent de deux cours d'eau, l'un tributaire de l'autre. C'était la Lewis River qui se jette dans le Yukon par un large évasement de sa rive gauche. Ainsi que le fit observer Cayette, ce fleuve, en la partie supérieure de son cours, porte aussi le nom de Pelly River. De l'embouchure du Lewis, il se dirige franchement vers le nord-ouest avant de s'infléchir à l'ouest pour aller verser ses eaux dans un vaste estuaire de la mer de Bering. Au confluent du Lewis s'élève un poste, le Fort Selkirk, moins important que le Fort Yukon, lequel est situé à une centaine de lieues en aval sur la rive droite du fleuve. Depuis le départ de Sitka, la jeune indienne avait rendu de précieux services en guidant la petite troupe avec une remarquable sûreté d'indication. Déjà, pendant sa vie nomade, elle avait parcouru ces plaines qu'arrose le grand fleuve alaskien. Interrogée par M. Serge sur la manière dont s'était passée son enfance, elle avait raconté toute sa vie si pénible aux temps où les tribus Injolet se transportaient d'un point à l'autre de la vallée du Yukon, puis la dispersion de la tribu, la dispersion de sa famille. Et alors, n'ayant plus de parents, elle s'était vue réduite à prendre le métier de servante chez quelques fonctionnaires ou agents de Sitka. Plus d'une fois, Jean lui avait fait recommencer sa triste histoire, et il en éprouvait toujours une profonde émotion. Ce fut aux environs du fort Selkirk que l'on rencontra quelques-uns de ces Indiens qui errent sur les rives du Yukon, particulièrement de ces Birch, nom que Cayette traduisait ainsi « Jean du Boulot ». Et, de fait, il existe nombre de ces essences de haute latitude au milieu des pins, des sapins Douglas et des érables dont est semé le centre de la province alaskienne. Le fort Selkirk, occupé par quelques employés de la compagnie russe américaine, n'est, à vrai dire, qu'un dépôt de pelleterie et de fourrure, où les négociants du littoral viennent faire leurs achats à des époques déterminées. Ces employés, heureux d'une visite qui rompait la monotonie de leur existence, firent bon accueil au personnel de la belle roulotte. Aussi, M. Cascabel résolut-il de prendre un repos de 24 heures. Toutefois, il fut décidé que la voiture traverserait le fleuve Yukon en cet endroit, afin de ne pas avoir à le franchir plus tard, et peut-être dans des conditions moins favorables. En effet, son lit gagnait en largeur et son cours en rapidité, à mesure qu'il se développait vers l'ouest. Ce fut M. Serge qui donna ce conseil, après avoir étudié sur la carte le tracé du Yukon, qui coupait l'itinéraire à 200 lieues en avant de Port Clarence. Donc, un bac transporta la belle roulotte sur la rive droite, avec l'aide des agents et des Indiens, cantonnés aux environs du fort Selkirk, et qui exploitent les eaux poissonneuses du fleuve. Par contre, l'arrivée de la famille ne leur fut pas inutile, et en échange de leurs services, elle put en rendre un dont ils apprécièrent toute l'importance. Le chef de la tribu était alors gravement malade, du moins on l'aurait pu croire. Or, il n'avait pour remède et pour médecin que le magicien traditionnel et les médications magiques en usage chez les tribus indigènes. Aussi, depuis quelque temps, ce chef avait-il été couché sur la place du village où un grand feu brûlait nuit et jour. Les Indiens, rassemblés autour de lui, chantaient en chœur une invocation au grand Manitou, tandis que le magicien essayait ses meilleurs sortilèges afin de chasser le mauvais esprit logé dans le corps du malade. Et, pour y mieux réussir, il essayait d'introduire ledit esprit dans sa propre personne. Mais celui-ci, très tenace, ne voulait point déguerpir. Heureusement, M. Serge, qui avait quelques teintures de médecine, put donner au chef indien des soins en rapport avec son état. Lorsque M. Serge l'eut examiné, il diagnostiqua sans peine la maladie de l'auguste malade, et, recourant à la petite pharmacie de voyage, il lui administra un énergique vomitif que toutes les incantations du magicien n'auraient pu remplacer. La vérité est que ce chef s'était donné une indigestion de premier ordre, et les pintes de thé qu'il absorbait n'arrivaient pas à la combattre. Il ne mourut donc pas, à la grande satisfaction de sa tribu, ce qui priva la famille Cascabel d'assister aux cérémonies qui accompagnent l'enterrement d'un souverain. Et encore, le mot enterrement n'est-il pas juste lorsqu'il s'agit de funérailles indiennes? Car c'est dans l'air que le corps est suspendu à quelques pieds au-dessus du sol. Là, au fond de son cercueil, et comme pour lui servir en l'autre monde, sont déposées sa pipe, son arc, ses flèches, ses raquettes et les fourrures plus ou moins précieuses qu'il revêtait pendant l'hiver. Puis, comme un enfant en son berceau, la brise le berce ainsi pendant son éternel sommeil. La famille Cascabel ne passa que 24 heures au Fort Selkirk, prit congé des Indiens et des employés, emportant un excellent souvenir de cette première halte sur la rive du fleuve. Elle dut remonter le cours de la Pelly River par une sorte de berge assez cahoteuse dont l'attelage ne se tira pas sans fatigue. Enfin, le 27 juillet, 17 jours après avoir quitté le Fort Selkirk, la belle roulotte arriva au Fort Yukon.